Nous n'avons pas, cette année, en étudiant les pères, couvert toute cette période. Nous n'avons étudié pratiquement que les pères de l'âge apostolique ou qui ont immédiatement suivi. Mais ce serait restreindre un peu trop le sujet que de ne vouloir étudier la fête de Pâques que chez ses auteurs. Et je pense que l'ensemble des pères des trois premiers siècles nous permettent alors d'étudier la fête de Pâques dans ses origines d'une façon plus complète et réellement intéressante. La fête de Pâques a été célébrée dans l'Église très certainement dès l'époque apostolique. En parlant de saint Irénée, si vous vous souvenez, nous avons parlé de la controverse pascale qui avait opposé dans l'Église les partisans d'un usage contre un autre usage en ce qui concerne la datation de Pâques, mais ce qui montre bien que dès le IIe siècle, la fête de Pâques était passée vraiment dans les mœurs, dans les usages de l'Église, et c'est une époque où on ne souciait guère d'innover, et la fête de Pâques était vraiment, dans la conscience chrétienne, une institution remontant à l'âge apostolique. Certains historiens de la liturgie pensent actuellement qu'il y a au moins des églises dans lesquelles la célébration annuelle de Pâques ne se serait répandue cependant qu'au IIIe siècle, et que ces églises auraient seulement jusque-là célébré la Pâque hebdomadaire, la célébration de la résurrection du Seigneur le dimanche. On peut discuter des textes qui basent cette interprétation, mais je crois qu'il est tout à fait certain que, pour les églises les plus importantes en tout cas, la fête de Pâques se célèbre dès les origines, dès l'âge apostolique. Nous parlerons le mois prochain du dimanche chrétien, de cette célébration hebdomadaire de la résurrection qui marque chaque huitième jour. Il est sûr que cette célébration du dimanche est encore antérieure à la Pâque annuelle, mais dès les débuts de l'Église, dès le IIe siècle, l'ensemble de l'Église, me semble-t-il, célèbre très certainement la fête de Pâques annuelle. Cependant, il y a à cette époque, j'y fais allusion à l'instant, deux usages, deux traditions qui se sont heurtées, comme je vous le disais. D'une part, les églises d'Asie, c'est-à-dire de la partie occidentale de l'Asie mineure, la région de Smyrne, la région des églises de l'Apocalypse, ces églises johanniques que nous avons rencontrées en étudiant notamment les lettres de saint Ignace d'Antioche. Ces églises étaient les églises quarto-décimales, c'est-à-dire où on célébrait Pâques, la Pâque chrétienne, le même jour que la Pâque juive. On avait gardé la date de la Pâque juive, le 14 de Nisan, d'où le nom de quarto-décimant pour désigner les partisans de cet usage. On avait gardé le jour de la Pâque juive comme date pour la célébration de la Pâque chrétienne. Alors que dans le reste du monde chrétien, où l'on célébrait la fête annuelle de Pâques, on avait adopté pour cette célébration le dimanche, ou plus exactement la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche étant déjà, dans l'ensemble de l'Église, le jour par excellence de la résurrection du Seigneur. Mais dans les deux cas, ce qu'on célébrait ainsi, dans cette nuit de Pâques, c'était indissolublement la mort et la résurrection du Seigneur. Quelques historiens ont pensé que les églises asiates, les églises qui célébraient le 14 de Nisan, ne célébraient ce jour-là que la mort du Seigneur, que la passion et la mort du Seigneur. Et que l'autre usage, celui de célébrer Pâques dans la nuit du samedi au dimanche, au contraire, mettait davantage l'accent sur la résurrection. Il ne semble pas, et pour toute l'Église primitive, quelle que soit la date adoptée pour la Pâque, on peut dire véritablement que l'objet de cette célébration, c'est tout l'ensemble du mystère pascal. Souffrance, mort et résurrection du Seigneur. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il n'existe pas d'autres fêtes chrétiennes annuelles. D'une part, le cycle de Noël, Noël-Théophanie, n'existe pas encore, il n'existera que plus tard, au IVe, Ve siècle, et même autour de Pâques, on n'a pas encore détaillé l'ensemble des épisodes de la vie et de la, des mystères qui entourent la résurrection du Seigneur pour en faire l'objet de célébrations distinctes. Il n'y a qu'une fête annuelle qui résume, qui rend présent, qui est vraiment le mémorial, mais en donnant à ce sens, à ce mot de mémorial, la plénitude de son sens, c'est-à-dire une réactualisation qui rend présent, qui est le mémorial de toute l'œuvre rédemptrice, de ce que les pères ont appelé ensuite l'économie du salut. Donc, à la fois l'incarnation et la rédemption, l'incarnation rédemptrice du Seigneur, sa mort et sa résurrection. C'est tout le mystère du salut qui est célébré dans cette fête de Pâques, à cette époque, quel que soit le jour choisi pour cette célébration. D'ailleurs, il reste tout de même certain que le fait central, si vous voulez, de cette célébration, c'est la commémoration de l'immolation d'agneau pascal. Donc, le mystère du Christ, le mystère de la rédemption, est entrevu à travers ce mystère de l'immolation d'agneau pascal. Et le texte fondamental qui sera commenté à cette occasion dans les premières liturgies sera le chapitre 12 de l'Exode qui raconte la célébration pascale des Juifs. Et les commentaires chrétiens montreront à ce moment-là comment le Christ est notre véritable Pâque et comment son immolation et sa résurrection sont la réalisation de cette figure qu'était l'agneau pascal. Mais il reste que l'accent n'est pas mis seulement sur l'aspect d'immolation, sur l'aspect de mort, mais indissolublement sur l'aspect de mort et de vie, de mort vivifiante. C'est donc tout le mystère du Christ et tout le mystère de notre rédemption qui est célébré dès cette époque, ce jour-là. Voici ce qu'écrit, par exemple, un père de la première moitié du deuxième siècle, enfin à peu près vers le milieu du deuxième siècle, Apollinaire de Hiérapolis, qui est un cartodécimant, qui est de cette région d'Asie, n'est-ce pas, on célébrait le 14 Nisan. Le 14 de Nisan est la vraie Pâque du Seigneur, le grand sacrifice où le Fils de Dieu se substitue à l'agneau, où celui qui fut chargé de liens a enchaîné le fort, où celui qui fut jugé est devenu le juge des vivants et des morts, et où celui qui fut livré aux mains des pécheurs pour être crucifié a été élevé sur les cornes de la licorne. Expression biblique, c'est ça qui fait allusion à tous ces textes mystérieux des psaumes qui parlent des cornes de la licorne. Ici, c'est une image qui évoque la croix, simplement. Mais la croix, en même temps, comme instrument de puissance. La licorne, dans les textes bibliques, évoque un animal fabuleux, extrêmement fort, extrêmement puissant, n'est-ce pas? Et cette idée de comparer les branches de la croix aux cornes de la licorne veut montrer dans la croix l'instrument de la victoire du Christ, cette puissance victorieuse de la croix. Ce jour où celui où le flanc sacré a été transpercé et a fait jaillir en retour ses deux moyens de purification, l'eau et le sang, le Verbe, la parole et l'Esprit, celui qui fut enseveli au jour de la Pâque avec la pierre placée sur son tombeau. Donc vous voyez que la célébration de ce 14 Nisan, ce mois juif, n'est-ce pas, lunaire, correspondant à peu près à notre, grosso modo, à notre mois d'avril, n'est-ce pas, cette célébration du 14 Nisan chez les Asiates, les églises d'Asie, a vraiment pour objet l'immolation du véritable agneau pascal, mais en dégageant toute la dimension victorieuse du sacrifice du Christ. C'est la passion comme victoire sur la mort du Christ par laquelle il a vaincu la mort. Et dans le même, à peu près dans la même région, voici ce qu'écrit Méliton de Sardes, à peu près au milieu du IIe siècle. Je vous cite simplement l'épilogue d'une très belle homélie, enfin d'une sorte de presque d'hymne, une homélie de forme quasi hymnique qu'il a composée sur la Pâque, pour la fête de Pâque. Et il a conclu comme ceci. « Étant Seigneur, ayant revêtu l'homme, et ayant souffert pour celui qui souffrait, ayant été lié pour celui qui était détenu captif de la mort, n'est-ce pas, l'homme pécheur, ayant été jugé pour le coupable, ayant été enseveli pour celui qui était enseveli, il ressuscita des morts et fit entendre ceci à haute voix. Qui disputera contre moi? Qu'il se mette face à moi. C'est moi qui ai délivré le condamné. C'est moi qui ai vivifié le mort. C'est moi qui ai ressuscité l'enseveli. Qui est mon contradicteur? C'est moi, dit le Christ, c'est moi qui ai détruit la mort, qui ai triomphé de l'ennemi et qui ai foulé aux pieds l'enfer, et qui ai lié le fort, et qui ai ravi l'homme vers les hauteurs des cieux. C'est moi, dit le Christ. Venez donc toutes les familles des hommes pétries avec les péchés et recevez la rémission des péchés. Car c'est moi qui suis votre rémission, moi la Pâque du salut, moi l'agneau immolé pour vous, moi votre rançon, moi votre vie, moi votre résurrection, moi votre lumière, moi votre salut, moi votre roi. C'est moi qui vous conduis vers les hauteurs des cieux, c'est moi qui vous ressusciterai. C'est moi qui vous montrerai le Père qui est depuis les siècles, c'est moi qui vous ressusciterai par ma main droite. Tel est celui qui fit le ciel et la terre, et qui forma au commencement l'homme, qui fut annoncé par la loi et les prophètes, qui fut incarné dans une vierge, qui fut suspendu sur le bois, qui fut enseveli en terre, qui fut ressuscité des morts, et qui monta vers les hauteurs des cieux, qui est assis à la droite du Père, qui a le pouvoir de juger et de sauver toutes choses, celui par qui le Père fit ce qui est depuis le commencement et jusque dans les siècles des siècles. C'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui le commencement et la fin, commencement inexplicable et fin insaisissable. C'est lui le Christ, c'est lui le roi, c'est lui Jésus, lui le stratège, le chef d'armée, lui le Seigneur, lui qui ressuscita des morts, lui qui est assis à la droite du Père. Il porte le Père, il est porté par le Père, à lui la gloire et la puissance dans les siècles. Amen. Voici donc la plus ancienne homélie que nous possédions sur Pâques. Et vous voyez combien nous y trouvons indissociablement lié cet aspect de mort et de vie, enfin, cette conscience dans la victoire à travers la souffrance et la mort. Mais comment célébrait-on Pâques à cette époque? La fête de Pâques comportait d'abord un jeûne. La célébration commençait par un jeûne dont la durée, d'ailleurs, variait plus ou moins selon les églises. À l'origine, il semble que l'usage le plus général ait été de limiter ce jeûne à 2 jours, notre grand vendredi, notre grand samedi actuel. Mais d'autres églises étalaient déjà plus ou moins ce jeûne. Et saint Irénée, en particulier, témoigne dans le texte que Zem nous a conservé à propos de la controverse pascale, que selon les diverses églises, les usages étaient assez variables à cet égard. Un peu plus tard, ce jeûne est devenu un jeûne de 6 jours, correspondant donc à l'ensemble de notre grande semaine. Ce n'est que beaucoup plus tard, au IVe siècle, que le jeûne alors a été étendu aux 40 jours qui précédaient le dimanche des palmes, le dimanche qui ouvrait la semaine de la passion du Seigneur. Le premier témoignage que je connaisse, au moins pour ma part, se trouve dans une lettre festale de saint Athanase d'Alexandrie de 342. Peut-être y a-t-il d'autres témoignages, je ne sais pas, antérieurs, mais en tout cas, on a l'impression, à voir la suite des lettres festales de saint Athanase, qui ont été conservées d'année en année, que jusqu'en 342, il semble le connaître, au moins il ne parle que du jeûne de 6 jours, de la semaine qui précède la soirée pascale, et que ce soit seulement à partir de 342 qu'il prescrit aux fidèles d'Égypte le jeûne de 40 jours, dont la signification, d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, est légèrement différente. Donc le jeûne le plus ancien, la tradition la plus ancienne, est de jeûner le vendredi et le samedi qui précèdent la nuit pascale. Sur le sens de ce jeûne, je vous relis quelques lignes que j'avais données dans le messager il y a quelques mois. le jeûne qui précède le dimanche de la célébration pascale n'avait pas le caractère d'une commémoration de la passion s'opposant à celle de la résurrection du Seigneur. On célébrait les deux, n'est-ce pas, mort et résurrection, mais ce n'était pas étalé dans le temps. Et on ne peut pas dire que ces deux jours de jeûne soient d'abord une manière de s'associer à la passion du Christ pour ensuite, dans la célébration liturgique, célébrer sa résurrection. Ce n'est pas exactement cela. Il semble que le souvenir de la passion du Christ n'ait pas alors appelé l'idée d'un jeûne marquant l'affliction. Elle était la cause du salut, et l'Église des martyrs ne l'envisageait que liée à la résurrection et déjà illuminée d'un reflet de sa splendeur. Certaines églises ont vu dans le jeûne pascal une intercession pour les juifs incrédules qui ont condamné le Christ. On trouve cela notamment dans la didascalie des apôtres qui nous est conservée en syriaque, mais ce n'est pas une position générale à cette époque, c'est plutôt une conception particulière, je crois, à certaines églises. Dans l'ensemble de l'Église, ce jeûne pré-pascal, ce jeûne qui préparait la célébration de la nuit pascale, était essentiellement une intense préparation à la joie spirituelle de Pâques, de la cinquantaine pascale. Parce que je regardais tout à l'heure, Pâques n'était pas seulement le jour de Pâques, mais se prolongeait ensuite 50 jours. L'Église jeûne, tandis que l'époux lui est enlevé, moins dans un sentiment de tristesse, que pour se préparer à la parousie sacramentelle et au dernier avènement qui aura lieu, selon une tradition qui plonge ses racines dans le judaïsme, au temps de Pâques. Donc c'est essentiellement un jeûne de préparation, voyez-vous, de concentration spirituelle, d'attente, de préparation à la célébration de la nuit pascale. Et l'on peut dire, là je ne fais que reprendre ce que disait le père Schmemann dans son livre sur le Grand Carême, le jeûne pascal est ainsi le jeûne eucharistique par excellence, le jeûne de préparation à l'Eucharistie. C'est à sa lumière que doit être compris le jeûne strict que l'Église ancienne a prescrit avant chaque réception de l'Eucharistie. Il ne s'agit pas simplement de s'imposer une restriction par respect pour le sacrement ou de faire un sacrifice onéreux pour communier avec plus de fruits. Le jeûne préludant la célébration eucharistique est un état de concentration spirituelle, ce sont les propres expressions du père Schmemann, un état de concentration spirituelle sur ce qui va venir. La fin physique correspond ici à l'attente spirituelle de l'accomplissement, à l'ouverture de tout l'être, à la joie qui approche. Donc voici le sens, c'est pas de ce jeûne de deux jours qui précédait à cette époque la fête de Pâques. Et le jeûne de 40 jours, alors qu'il apparaîtra au IVe siècle, lui est plutôt un jeûne ascétique, beaucoup moins rigoureux d'ailleurs, puisque ces deux jours de jeûne, les deux jours de jeûne strict qui n'étaient rompus que lors de la célébration pascale, pendant les 40 jours, il n'est plus question que d'un jeûne mitigé et d'un jeûne ascétique, d'un jeûne de purification, faisant partie de toute une pédagogie de purification de l'âme dans la préparation pascale. Donc d'abord, au moins deux jours de jeûne. Puis, le samedi soir, le grand samedi au soir, commence une vigile, une longue veillée de toute la nuit, qui sera occupée dans toute sa première partie par des lectures, notamment la lecture donc de ce chapitre 12 de l'Exode, qui, dans les églises primitives, devait être suivi d'un commentaire de ce texte pour en montrer la transposition chrétienne, pour montrer comment le Christ est le véritable agneau pascal, comment la Pâque du Christ, sa mort et sa résurrection, réalisent les figures que l'on retrouve dans le texte de l'Exode. Et la célébration du baptême devait suivre cette série de lectures qui pouvaient être plus ou moins entrecoupées de chants d'origine biblique, bien entendu. Puis, à cette époque, la célébration de l'Eucharistie était encore liée à une agape, à un repas communautaire qui prolongeait les repas de confréries juives ou le repas pascal juif qui avait un caractère sacré très marqué, ce n'était pas un repas profane. Et l'Eucharistie était liée à cette agape, à ce repas de communauté qui marquait la rupture du jeûne et l'entrée véritablement dans la joie de la résurrection. Mais cette célébration eucharistique n'était que le point de départ d'un long espace joyeux pendant lequel on célébrait constamment la résurrection du Christ et qu'on appelait la cinquantaine pascale. Cinquantaine, en grec, pentikosti. Et la signification la plus ancienne du mot Pentecôte, n'est-ce pas, ne s'applique pas dans l'Église au 50e jour, le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. On ne fêtera la Pentecôte comme fête distincte plus tard, au 4e, 5e siècle. À cette époque, quand on parle de Pentecôte, quand on parle de cinquantaine, c'est le sens du mot Pentecôte, il s'agit de cet espace de 50 jours de joie qui suivent le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Et ces 50 jours ne sont que, en quelque sorte, l'étalement durant 7 semaines de cette joie pascale qui éclate à l'issue de l'Eucharistie de la nuit pascale. Il y a déjà des témoignages de saint Irénée, par exemple, sur l'existence à son époque, donc en plein deuxième siècle, de cette cinquantaine pascale. Voici par exemple ce qu'en dit saint Irénée. Saint Irénée a écrit un sermon, un discours sur Pâques qui ne nous a pas été conservé, mais dont nous connaissons un petit peu le contenu par un texte du pseudo-Justin qui y fait allusion. Et voici, d'après ce texte attribué à saint Justin, mais qui n'est pas de lui, ce que saint Irénée dit dans ce discours sur Pâques. Il mentionne également la Pentecostie, la Pentecôte, la cinquantaine, où nous ne nous mettons pas à genoux parce que cette fête des 50 jours, a la même portée que le jour du Seigneur. Donc dès cette époque, voyez-vous, il y a là 50 jours qui sont une sorte de dimanche prolongé, si l'on peut dire, où on ne se met pas à genoux parce que c'est entièrement consacré à la célébration de la résurrection. Et un peu plus tard, Tertullien également parle de cette cinquantaine pascale. Nous considérons comme une faute de jeûner ou de prier à genoux le dimanche. Nous jouissons de ce même privilège depuis le jour de Pâques, durant toute la Pentecostie, durant toute la Pentecôte. Et encore une fois, Pentecôte, là, désigne la cinquantaine pascale. Et dans un autre ouvrage, enfin dans son traité sur la prière, dans un autre ouvrage, Tertullien dit encore ceci: quant à nous, conformément à la tradition, nous devons nous abstenir au jour de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire chaque dimanche, non seulement de nous mettre à genoux, mais de toute attitude et de tout geste qui traduirait le chagrin. Nous remettons même les affaires à plus tard pour ne pas donner place aux démons. Il en va de même pour le temps de la cinquantaine qui est vécu dans la même joie festive. Donc ce qui est la discipline habituelle pour le dimanche, ne pas prier à genoux, ne pas jeûner, ne pas avoir de manifestation de tristesse, eh bien cela s'étend aussi à toute la cinquantaine pascale, qui est donc conçue à cette époque comme une sorte de dimanche prolongé de 50 jours, mais qui n'est pas encore à cette époque coupé par la fête de l'Ascension et qui ne se termine pas par une fête particulière en l'honneur de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ou à plus forte raison, une fête de la Sainte Trinité, comme nous concevons maintenant ce 50e jour. Et quand nous lisons les textes de ces pères, il faut être donc très attentif au vocabulaire qu'ils emploient. Quand ils parlent de Pâques, n'est-ce pas, ça peut désigner le dimanche de Pâques ou la nuit pascale, mais cela peut désigner aussi les deux jours précédents, les deux jours de jeûne qui précèdent et qui sont aussi désignés par le nom de Pâques. Dans les apophthegmes des Pères du désert, par exemple, il est fait quelquefois allusion aux pères qui jeûnent le jour de Pâques. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils jeûnent le dimanche de Pâques, mais ils jeûnent le vendredi et le samedi qui préparent Pâques. N'est-ce pas? Quand le mot de Pâques est associé à l'idée de jeûne, le terme de Pâques lui-même désigne ce jeûne pascal. Mais d'autre part, le terme peut aussi désigner alors le dimanche lui-même. Et quand nous trouvons le mot Pentecôte, n'est-ce pas, cinquantaine, Pentecosti, à ce moment-là, il s'agit de la cinquantaine pascale comme telle, et non pas d'un jour de la Pentecôte, comme plus tard. En ce qui concerne le mot lui-même de Pâques, les pères les plus anciens l'interprètent au prix d'un certain calembour, ne connaissant pas l'hébreu. Ils le font dériver en général du mot grec paskin, qui veut dire souffrir. Donc le mot Pâques, pour eux, est synonyme de passion, mais sans jamais envisager la passion indépendamment de la résurrection. Mais le mot par lui-même évoque pour eux l'idée de souffrir. Et c'est seulement Origène, qui lui a une certaine connaissance de l'hébreu, qui décèlera ce contresens et qui alors soulignera le fait que le mot Pâques, si on se réfère à l'hébreu, signifie passage. Dans l'hébreu, le mot se rapportait au passage de l'ange exterminateur, n'est-ce pas, qui sautait en quelque sorte les portes des Hébreux, qui étaient marquées du sang de l'agneau et qui épargnaient ainsi les premiers-nés des Hébreux. Donc c'est le passage du Seigneur, mais le passage de l'ange exterminateur qui épargne, du point de vue chrétien, ceux qui sont baptisés. Ceux qui sont marqués par le sang de l'agneau, ce sont les baptisés. Et dans certaines homélies pascales des premiers siècles, on trouve cette interprétation. Pâques évoque ce passage du Seigneur, ce passage aussi de l'ange exterminateur, n'est-ce pas, qui épargne ceux qui sont marqués par le sang de l'agneau, qui épargne les baptisés. Donc c'est le salut par la croix, le salut par le sang de l'agneau qui est encore signifié ici. Mais Origène a une signification, donne une signification plus spirituelle à ce terme de passage. Pour lui, le mot de Pâques, ainsi compris, évoque le passage de l'Égypte à la liberté, pour les Hébreux, mais ce qui devient, pour les chrétiens, le passage des ténèbres du péché et de la mort, des ténèbres de l'esclavage de Satan à la vraie lumière, et le passage de la mort à la vie, la résurrection avec le Christ. C'est tout cela que le mot de Pâques va signifier dans la tradition d'Origène, et cette interprétation sera évidemment largement ensuite reprise par les pères. Mais ces trois significations de Pâques se retrouvent plus ou moins dans l'ensemble de la littérature patristique. Et c'est à partir de là que l'on voit un peu dans quelle tradition se situe tel ou tel père. Soit de voir s'il interprète Pâques dans le sens de souffrance, alors là c'est plutôt dans la ligne de saint Hippolyte de Rome, dans la ligne aussi de saint Cyprien, tandis que ceux qui donnent au mot de Pâques le sens de passage sont généralement plus ou moins disciples d'Origène, mais disciples tout à fait orthodoxes d'ailleurs. Donc voilà comment on célébrait Pâques durant les trois premiers siècles. Comme je vous le disais tout à l'heure, ensuite la tradition liturgique va évoluer, la grande semaine va se constituer et on étalera dans le temps les divers épisodes du mystère pascal. On en viendra à célébrer le grand jeudi, la dernière scène, la scène du Seigneur, le vendredi, la mort du Seigneur, le samedi, plutôt sa descente au tombeau, et le dimanche, alors, la résurrection, qui ne sera pas séparée des autres mystères, mais qui tout de même fera l'objet d'une célébration particulière. Et le dimanche de Pâques deviendra alors vraiment uniquement le point de départ de la grande cinquantaine consacrée à fêter la résurrection. Et puis, dans cette cinquantaine pascale, on distinguera le 40e jour où on célébrera l'Ascension, et puis le 50e jour, qui sera le jour de la Pentecôte, alors au sens strict, n'est-ce pas, le 50e jour, commémorant l'effusion de l'Esprit sur les apôtres au Cénacle, et par là même, la révélation plénière de la Sainte Trinité. Et également, durant cette grande période patristique, du 4e, 5e siècle, alors prendra naissance le cycle de Noël et de la Théophanie, ce qui amènera à dissocier de la célébration pascale l'aspect d'incarnation. Le mystère de l'incarnation comme tel sera plutôt célébré autour de Noël et de la Théophanie, et les jours de la Pâque deviendront essentiellement la fête de la mort et de la résurrection du Seigneur, et non plus de la totalité de l'économie rédemptrice. Ce n'est pas du tout une dévaluation, n'est-ce pas, il n'y a pas de perte de quoi que ce soit là-dedans, mais à condition de bien garder, et les textes liturgiques le font, de bien garder le sens profond de l'unité du mystère. Beaucoup plus tard, en Occident notamment, on aura trop tendance alors à monnayer et à dissocier tous ces aspects du mystère du Christ. Mais les grands textes liturgiques, aussi bien d'ailleurs de tradition byzantine que de tradition occidentale, ont toujours gardé le sens très profond de l'unité du mystère et, si je puis dire, de la compénétration de la croix et de la gloire. Mais nous avions parlé le mois dernier du martyr, de cette vie spirituelle des premiers chrétiens, toute polarisée par le martyr, et je vous disais combien cette spiritualité du martyr n'avait pas de caractère doloriste, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce que, précisément à cette époque, on a ce sens extrêmement vif, extrêmement prégnant, n'est-ce pas, de l'unité du mystère du Christ, et la souffrance que l'on vit, à laquelle on est exposé chaque jour, dans cette grande lumière de la foi, est toujours conçue comme une souffrance associée à celle du Christ, et donc victorieuse, et donc triomphante de la mort. Et c'est cette célébration de Pâques qui finalement nous livre la clé de l'attitude profonde des martyrs, cette absence totale chez eux de dolorisme, mais au contraire de cette joie extrêmement lumineuse, extrêmement paisible, n'est-ce pas, que nous sentions l'autre jour à travers les textes que je vous ai lus et qui pénètrent complètement l'âme des martyrs, qui pénètrent complètement toute l'Église de l'époque des martyrs. Nous pouvons aborder maintenant deux textes un peu longs, mais que je voudrais vous présenter parce qu'ils nous font bien entrer dans cette conception du mystère de Pâques tel qu'on le célébrait à cette époque. Le premier texte est une homélie de saint Hippolyte de Rome. Vous savez que saint Hippolyte de Rome a d'abord été antipape, il a été le chef d'une fraction schismatique de l'Église de Rome, mais il est devenu lui-même martyr, victime de la persécution, et a toujours été vénéré comme saint dans la tradition de l'Église. Et c'est un homme certainement d'une très grande dignité personnelle. Le fait qu'il ait été pris dans ces remous de politique ecclésiastique n'enlève rien à sa sainteté personnelle, très certainement, et sa doctrine est tout à fait remarquable. Et nous avons de lui, alors on a retrouvé il y a quelques années, une homélie pascale qui est un texte véritablement admirable. Vous verrez d'ailleurs combien, car ce texte, selon toute vraisemblance, est romain d'origine. Je sais bien qu'un patrologue a prétendu que l'Hippolyte, auteur de ces textes, ne serait pas le pape, enfin l'antipape, saint Hippolyte. Mais il n'a pas été suivi par l'ensemble des historiens. Et ce texte vous montrera combien, à cette époque, le ton d'une homélie romaine est proche de toute la grande tradition liturgique. C'est un texte qui pourrait aussi bien être byzantin que... Enfin, pas byzantin, puisque à l'époque, on ne parle pas encore de byzantin, mais il pourrait provenir de n'importe quel point de l'Église à cette époque. Il y a vraiment un langage unique et d'une densité, d'une plénitude admirable. Voici les passages principaux de ce texte. Voici que les rayons sacrés de la lumière du Christ resplendissent. Les purs flambeaux de l'Esprit pur se lèvent et les trésors célestes de gloire et de divinité sont ouverts. La nuit immense et obscure a été engloutie, les sombres ténèbres ont été détruites dans cette lumière, et l'ombre triste de la mort est rentrée dans l'ombre. La vie s'est étendue sur tous les êtres, et tous les êtres sont remplis d'une large lumière. L'Orient des Orients occupe l'univers, et celui qui était avant l'étoile du matin et avant les astres, immortel et immense, le grand Christ brille sur tous les êtres plus que le soleil. C'est pourquoi, pour nous tous qui croyons en lui, s'instaure un jour de lumière, long, éternel, qui ne s'éteint pas. La Pâque mystique, célébrée en figure par la loi, et accomplie effectivement par le Christ. La Pâque merveilleuse, prodige de la divine vertu, et œuvre de la divine puissance, fête véritable et éternelle mémoriale, impassibilité qui sort de la prison et immortalité qui sort de la mort, vie qui sort du tombeau et guérison qui sort de la plaie, résurrection qui sort de la chute et ascension qui sort de la descente aux enfers. C'est ainsi que Dieu opère de grandes choses, c'est ainsi que de l'impossible, il a créé l'incroyable, afin qu'on sache que seul il peut tout ce qu'il veut. Et un peu plus loin, La Pâque, c'est la panégyrie, la fête commune, la fête qui rassemble tout le monde. La Pâque, c'est la panégyrie commune de tous les êtres. Donc que la volonté du Père envoyée au monde est divin levé du Christ sur la terre. Fête éternelle pour les anges et les archanges et vie mortelle pour le monde entier. Plaie mortelle pour la mort et nourriture incorruptible pour les hommes. Animation céleste pour tous les êtres et solennité sacrée pour le ciel et la terre, qui prophétisent des mystères anciens et nouveaux, contemplés par la vue sur la terre et par l'intelligence dans les cieux. C'est pourquoi, nous rattachant à ceux qui ont été initiés avec une sainte connaissance aux choses anciennes et nouvelles, l'Ancien et Nouveau Testament, nous avons entrepris de dire aussi brièvement que possible ce qu'est la fête de Pâques. Il précise un peu plus loin, la Pâque que Jésus a désirée pour nous, c'était de pâtir. Nous retrouvons l'ancienne étymologie fausse de Pâques. Par la souffrance, il nous a délivrés de la souffrance. Par la mort, il a vaincu la mort. Et par la nourriture visible, il nous a procuré sa vie immortelle. Voici le désir salutaire de Jésus. Voici son amour tout spirituel. Montrer les figures comme des figures, et à leur place, donner à ses disciples son corps sacré. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang, la nouvelle alliance, versée pour beaucoup en rémission des péchés. S'il ne désire pas tant manger qu'il ne désire souffrir, c'est afin de nous délivrer de la souffrance encourue en mangeant. Une sorte d'antithèse là entre la mendication du fruit défendu au paradis et puis la nourriture de vie qui est le corps du véritable agneau pascal livré dans l'Eucharistie dans la nuit pascale. Et en conséquence, à la place du bois plantant le bois, à la place du bois de l'arbre du paradis plantant le bois de la croix, à la place de la main perverse qui s'était tendue autrefois chez Adam dans un geste d'impiété, clouant sa propre main dans un geste de piété, il a montré en sa personne toute la vraie vie pendue à l'arbre. Toi, Israël, tu n'as pas pu en manger, mais nous autres, avec une connaissance spirituelle indestructible, nous en avons mangé, et en mangeant, nous ne mourrons pas. Cet arbre m'est un salut éternel. De lui, je me nourris, de lui, je me repais. Par ses racines, je m'enracine, et par ses branches, je m'étends. Sa rosée me réjouit, et son esprit, comme un vent délicieux, me fertilise. À son ombre, j'ai dressé ma tente, et fuyant les grandes chaleurs, j'y trouve un abri plein de rosée. Ses feuilles sont ma frondaison, ses fruits mes parfaites délices, et je jouis librement de ses fruits qui m'étaient depuis l'origine réservés. Il est dans la faim ma nourriture, dans la soif ma source et mon vêtement dans la nudité. Car ses feuilles sont l'esprit de vie, loin de moi désormais les feuilles de figuier. Quand je redoute Dieu, il est ma protection, et quand je chancelle, mon appui. Quand je combats, mon prix, et quand je triomphe, mon trophée. C'est pour moi le sentier étroit et la route resserrée. C'est l'échelle de Jacob et le chemin des anges, au sommet duquel le Seigneur est vraiment appuyé. Cet arbre aux dimensions célestes s'est élevé de la terre aux cieux, se fixant, plante éternelle, au milieu du ciel et de la terre, soutien de toutes choses et appui de l'univers, support de toute la terre habitée et joint du monde, tenant assemblée la variété de la nature humaine et cloué par les chevilles invisibles de l'esprit, afin que, ajusté au divin, il n'en soit plus détaché. Touchant par son faîte le sommet des cieux, affermissant la terre par ses pieds, et étreignant de tous côtés par ses mains immenses l'esprit nombreux de l'air entre ciel et terre, le Christ était tout entier, en tout et partout. Lui qui remplissait tout s'est dévêtu pour lutter nu contre les passions de l'air, contre les puissances de l'air, excusez-moi, contre les démons, n'est-ce pas, répandus dans l'air. Et pour un court instant, il crie qu'on lui donne à boire afin de montrer vraiment qu'il est homme aussi. Mais se rappelant sa mission et voulant accomplir l'économie pour laquelle il a été envoyé, il crie à nouveau, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est que l'esprit est prompt et la chair est faible. puisque le combat sans merci qu'il courait était le combat de la victoire. D'abord, sur sa tête sacrée, il a été couronné d'épines, effaçant toute la malédiction ancienne de la terre et extirpant par sa tête divine les épines trop abondantes qui résultent du péché. Puis, après avoir épuisé le fiel amer et acide du dragon, il nous versa tout entière en échange les sources suaves qui viennent de lui. Car, voulant détruire l'œuvre de la femme, d'Ève, et faire obstacle à celle qui avait jailli auparavant du flanc d'Adam, porteuse de mort, voici qu'il a ouvert son propre flanc sacré, d'où ont jailli le sang et l'eau sacrée, signe plénier des noces spirituelles, de l'adoption et de la renaissance mystique. C'est toute cette idée que du côté ouvert du Christ en jaillit l'Église, la nouvelle Ève. Et un peu plus loin encore, quand prit fin le combat cosmique et que de tous côtés le Christ eut lutté victorieusement, ni élevé comme Dieu, ni vaincu comme homme, il demeura planté sur les confins de l'univers, produisant triomphalement en sa personne un trophée de victoire contre l'ennemi. Alors, devant sa longue endurance, l'univers fut stupéfait. Alors, les cieux furent ébranlés, les puissances, les trônes et les lois supraterrestres furent secouées en voyant le généralissime de la grande puissance fendu. Peu s'en fallut que les étoiles du ciel tombassent en voyant étendu celui qui existait avant l'étoile du matin, et le feu du soleil aussi s'éteignit pour un court instant en voyant la grande lumière du monde obscurcie. Peu s'en fallut que le monde entier ne fût anéanti, dissous de peur devant la passion, si le grand Jésus n'avait exhalé le divin esprit en disant « Père, je remets mon esprit en tes mains ». Toute chose, en effet, était épouvantée et agitée par un tremblement de peur, tout était secoué. Mais quand, à nouveau, monta le divin esprit, l'univers, en quelque sorte animé, vivifié et affermi, retrouva la stabilité. Ô divine extension, en tout et partout, ô crucifixion qui s'étend à travers toute chose. Et le texte termine ainsi. Ô corégie mystique, danse mystique, ô fête spirituelle, ô Pâque divine, tu descends des cieux jusqu'à la terre et tu remontes de la terre dans les cieux. Ô festivité commune de toutes choses, panégyrie du monde, ô joie et honneur de l'univers, sa nourriture, ses délices, par toi la ténébreuse mort a été détruite et la vie étendue à toute chose. Les portes des cieux ont été ouvertes, un Dieu s'est montré homme et un homme est monté comme Dieu. Grâce à toi, les portes de l'enfer ont été rompues et les verrous des reins brisés. Le peuple d'en bas est ressuscité des morts, proclamant la bonne nouvelle, et aux troupes d'en haut, un cœur a été fourni depuis la terre. Ô Pâque divine, qui n'a pas confiné Dieu en le faisant sortir du ciel, mais l'a joint désormais spirituellement à nous, grâce à toi, la grande salle des noces a été remplie. Tous portent la robe nuptiale, et personne ne sera jeté dehors parce qu'il n'a pas la robe des noces. Ô Pâque, lumière des flambeaux nouveaux et éclat des torches des vierges, grâce à toi, les lampes des âmes ne s'éteignent plus, mais le feu divin et spirituel de la charité brûle en tous, dans l'esprit et dans le corps, approvisionné de l'huile même du Christ. C'est bien toi que nous invoquons, Dieu, Maître spirituellement éternel, et Christ, Maître et Roi. Maintiens tes grandes mains sur ton Église sacrée et sur ton saint peuple, toujours tiens, le gardant et le conservant, attaquant, poursuivant, combattant, soumettant tous les adversaires et vainquant même les ennemis de la puissance invisible. Puisque tu as vaincu nos ennemis, comme ceux d'Israël, dresse encore maintenant toi-même les trophées de notre salut et fais à nous aussi la grâce de chanter avec Moïse l'hymne de victoire, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et l'empire pour les siècles des siècles. Amen. Donc ce texte admirable, ça nous montre tout ce sens de la fête pascale pour l'Église des martyrs. Et saint Hippolyte lui-même, n'est-ce pas, sera exilé et mourra en exil avec le pape saint Poncien, son rival, et sera donc pratiquement martyr lui-même. Je vous lis un autre texte maintenant qui est lui inspirait d'Origène. Il est un peu plus tardif dans sa rédaction, mais tous les thèmes développés remontent au IIIe siècle également. Alors, ce texte, lui, à la différence du précédent, ne cherche pas à nous donner une vue synthétique du mystère de Pâques, une vue synthétique de tout le mystère de la rédemption rendu présent dans la célébration de la nuit pascale. C'est un commentaire du chapitre 12 de l'Exode. Et il nous montre comment les chrétiens de cette époque, donc, au moins dans la tradition alexandrine, interprétaient ces textes et y voyaient les figures de la Pâque du Christ et de la Pâque des chrétiens. Le texte est suivi pas à pas, j'en retiens simplement les éléments essentiels. L'auteur retient d'abord une première phrase du texte de l'Exode où il nous est dit que le mois de Nisan, où l'on célèbre la Pâque, est le commencement des mois de l'année. L'ordonne que Dieu allait infliger aux Égyptiens la dixième plaie, à savoir la mort des premiers-nés, il dit à Moïse « Ce mois est pour vous le commencement des mois, c'est pour vous le premier des mois de l'année. » Il prescrivit aussitôt après l'immolation de la Pâque et l'onction de sang sur les portes, et par cette onction, il promit le salut des premiers-nés. Mais, sans plus tarder, qu'est-ce que signifie « contempler par rapport à la vérité, contempler par rapport au Christ » cet ordre de prendre pour commencement de l'année le moment dans lequel s'accomplissent la Pâque et le salut des premiers-nés. Cela signifie que pour nous aussi, le commencement de la vie éternelle, c'est l'immolation de la vraie Pâque. L'année est en effet le symbole de l'éternité, car tournant en cercle, elle revient toujours sur elle-même et ne s'arrête à aucun terme. L'immolation de la vraie Pâque que le Christ, offert en victime pour notre salut, est lui-même, Père de l'éternité à venir. Et que, rendant périmée toute notre vie antérieure, il nous donne le commencement où lui-même reconnaît la grâce et comprend la vie procurée par cette immolation. Sachant cela, qu'il aspire à prendre le commencement de elle et qu'il ne retourne plus vers l'ancienne dont il a atteint le terme. Nous qui sommes morts au péché, est-il écrit, comment y vivrons-nous encore ? Donc cette première phrase, n'est-ce pas, du livre de l'Exode, signifie que le chrétien doit, en entrant dans ce mystère de Pâques, commencer véritablement une vie entièrement nouvelle. L'accent étant mis sur cette participation, cette coopération, notre liberté au don qui nous est fait dans la célébration pascale. Puis le texte de l'Exode mentionne que l'agneau est pris le 10 du mois de Nisan et immolé le 14 vers le soir. Et ce disciple d'Origène, qui ne fait que reprendre d'ailleurs des éléments fournis ici et là dans les homélies proprement dites d'Origène, cherche à expliquer le sens de ces diverses particularités. Donc le texte ordonne que le 10 du mois, chacun prenne un agneau par maison, et qu'en la maison, il y ait des convives en nombre suffisant pour le manger sans que rien n'en reste, mais que l'agneau soit immolé le 14 vers le soir. Donc, pendant 5 jours, la victime est avec ceux qui doivent être sauvés par elle, puis, comme s'achève le 5e jour, la victime est immolée. La mort passe outre, et celui qui est sauvé jouit d'une lumière perpétuelle, la lune brillant pendant toute la nuit, et le soleil succédant à la lune, car c'est le 15 jour de la pleine lune. Donc la victoire de la lumière sur les ténèbres, symbolisée par la date même de Pâques au solstice de printemps. Aux équinoxes, l'équinoxe de printemps, finalement. Ces 5 jours, alors pour ce commentateur, expriment au fond toute la longue préparation de l'Ancien Testament, toute l'attente du Christ, cette présence secrète déjà du Christ parmi nous, à travers l'Ancien Testament, symbolisée par tous les faits de l'Ancien Testament, et qui prépare l'immolation qui aura lieu alors sur le calvaire, le jour de la où s'accompliront toutes les figures de l'Ancien Testament. C'est donc à travers ces cinq jours, n'est-ce pas, où l'agneau a été choisi, mais n'est pas encore immolé, c'est toute une vision de l'histoire du salut et de la préparation de la Pâque dans l'histoire que cette tradition issue d'Origène envisage. Puis ensuite, il est prescrit que l'on doit manger dans chaque maison toute la victime. Quant à l'ordre de manger dans chaque maison toute la victime et de ne pas emporter de ses chairs au dehors, cela indique qu'une maison unique possède seule le salut dans le Christ, à savoir l'Église répandue sur toute la terre, autrefois étrangère à Dieu et maintenant seule familière de Dieu, parce qu'elle a reçu les envoyés du Seigneur Jésus. Les envoyés sont aussi les apôtres. Mais il y a une allusion à Rahab qui avait reçu à Jéricho les envoyés des Hébreux dans l'Ancien Testament. Tout comme la maison de Rahab, maison de l'ancienne prostituée, pour avoir accueilli les espions de Jésus Josué, fut seule aussi à être sauvée dans la ruine de Jéricho. Ainsi, bien que les maisons des Hébreux soient nombreuses, elles ont la valeur d'une seule maison. Dans l'Ancien Testament, chaque maison, n'est-ce pas, était le lieu de la célébration de l'agneau pascal, et elles étaient toutes mystiquement identiques du fait de cette unique célébration en elles. Et alors, d'une façon extrêmement intéressante, l'auteur va rapprocher cela du mystère de l'Église. De même, les églises des villes et des campagnes, tout en étant un grand nombre, sont une Église unique. Car unique en elle est le Christ, lui qui est parfait et indivisible. Et c'est bien pourquoi la victime était parfaite dans chaque maison et n'était pas divisée entre des maisons différentes. Paul lui-même dit que nous sommes tous un dans le Christ parce que un est le Seigneur et une la foi. Ce texte est extrêmement important au point de vue ecclésiologique, conception de l'Église dans les premiers siècles. L'Église, c'est vraiment la communauté eucharistique, et chaque communauté eucharistique, quand elle est authentique, quand l'Eucharistie qui est célébrée est vraiment l'Eucharistie authentique, eh bien, elle est identique à toutes les autres communautés. L'Église universelle n'est pas une vaste société dont chaque Église serait une partie, n'est-ce pas, seulement une partie, mais elle est formée de l'identité, si on peut dire, de toutes les communautés eucharistiques. Et l'auteur poursuit. Par l'unité indivisible de la victime, la loi préfigurait donc nécessairement le Christ, en préfigurant aussi dans cette unité celle de l'Église. C'est bien dans le Christ que nous avons le salut et dans le sacrifice du Christ. Aussi savons-nous que tout ce qui a précédé sa venue était disposé en vue de cette venue, et que la seule chose qui a été proposée à l'humanité entière depuis l'origine et commise devant ses yeux, c'est l'immolation du Christ pour tous. Mais nous n'ignorons pas, d'autre part, qu'à l'Église unique appartient ce salut et que personne hors de l'Église catholique et de la foi ne peut participer au Christ ni être sauvé. Connaissant cela, d'un côté, nous savons que ce n'est pas dans l'observation de la loi, mais dans le Christ, que le salut du monde entier s'achève, et de l'autre, nous dénions aux hérésies impies toute espèce d'espérance, nous les plaçons au contraire complètement en dehors de l'espérance, car elles n'ont certes même pas la plus petite participation au Christ, mais elles se réclament sans fondement du non-sauveur pour tromper et léser ceux qui sont capables de s'attacher davantage au nom et à l'apparence qu'à la réalité. Que personne donc ne brise le lien des choses anciennes avec le Christ, ni ne suppose que sans le Christ, aucun de ceux qui l'ont précédé fut sauvé. Mais d'autre part, à ces faux maîtres d'aujourd'hui qui falsifient la vérité, et fabrique de vains semblants d'église en dehors de la vérité et étrangers au Christ, à des gens pareils que nul ne donne le nom de chrétien ni n'ait communion avec eux. Ce n'est pas permis, puisque la victime n'est pas emportée hors de la maison sacrée ni donnée en communion à ceux du dehors. Là encore, nous retrouvons une ecclésiologie très commune chez les pères, n'est-ce pas, cette idée que c'est qu'on ne peut pas séparer le Christ de l'Église, qu'on ne peut pas séparer l'Église de la vraie foi. Alors ceci ne veut pas dire, bien sûr, Dieu n'est pas libre de ses dons et que en dehors des limites visibles de l'Église, la grâce n'agisse pas, mais le lieu normal où la grâce agit, c'est précisément cette maison unique qu'est l'Église, où se célèbre dans l'unité de la foi l'unique sacrifice du Christ. Mais les pères, eux, sont à une époque, n'est-ce pas, où les hérésies sont des hérésies virulentes et qui divisent véritablement l'Église, qui sont des factions animées d'un esprit véritablement schismatique et un esprit d'erreur. Et les pères ne se soucient pas de nuances, évidemment, pour savoir si... mais ils le disent dans d'autres circonstances d'ailleurs, mais enfin ils n'insistent pas sur ce point, ce problème des limites visibles de l'Église évidemment. Mais le principe est absolument fondamental, n'est-ce pas ? C'est, on ne peut pas séparer l'Église du Christ, n'est-ce pas ? Et d'une manière ou d'une autre, c'est dans l'Église que le Christ est donné. Ensuite, l'auteur commente le verset de l'Exode où il est dit que l'agneau devra être parfait, mâle et de l'année. Mais, préfiguration de la gloire du Sauveur, nous voyons que l'agneau est parfait, mâle et de l'année. Parfait, parce que seul le Christ est sans défaut, en toute vertu, immaculé sous tout rapport, pourvu de toute justice depuis le début jusqu'à la fin, comme il le dit lui-même. C'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. C'est pourquoi toutes les victimes étaient offertes parfaites et immaculées, parce qu'elles étaient toutes immolées en figure du Christ, et les prêtres aussi, d'après l'ordre de Dieu, devaient être intègres et parfaits de corps, parce qu'ils étaient tous la figure du prêtre véritable. Un peu plus loin, l'auteur commente alors le rite de l'onction du linteau des portes et du montant des portes avec le sang de l'agneau. La raison d'être des figures de la loi. La raison d'être des figures de la loi apparaît au contact de la vérité. La vérité étant toujours le Christ, c'est le nom même du Christ, n'est-ce pas, qui nous révèle la vérité de la loi, le sens de la loi. Par exemple, pourquoi l'agneau dont la loi se servait pour le sacrifice pascal était-il immaculé, mâle, de l'année, pris le 10 pour être immolé le 14 vers le soir, et pourquoi le moment où l'on célébrait la Pâque était-il considéré comme le début des mois? Tout cela, nous l'avons vu, tout cela dans le Christ et dans la passion du Christ se montre vrai et nécessaire. Ceux qui ignorent le Christ ne sauraient donner une justification de ces choses, ni expliquer pourquoi Dieu les a prescrites. Quelle efficacité, en effet, l'immolation des victimes pouvait-elle avoir sur le salut des premiers-nés ? Et de quelle nécessité était l'onction de sang comme signe sur les maisons ? Dieu, quant à lui, connaissait assurément, même sans signe, les maisons des Hébreux. Si bien qu'on s'étonne de sa parole, je verrai le sang et je vous protégerai. Mais en rapportant cela aussi à la vérité, on en découvre la raison d'être, comme nous l'avons montré pour les autres figures qui viennent d'être dites. Quand la victime immaculée souffre pour nous, la mort qui vient de l'homme premier formé est dissoute. L'homme premier engendré, qui est en nous tous, est sauvé, étant vivifié par la résurrection du Sauveur, car il est normal que la vie dissolve le péché et la mort. Le sang immaculé devient un signe salutaire pour ceux qui y participent, et Dieu, le regardant, sauve ceux qui en sont oints par la foi, tandis qu'ils ne peuvent échapper à l'ange du juste châtiment autrement que par le sang miséricordieusement versé pour nous. Tu vois toute la valeur de la figure quand on la contemple par rapport à la vérité. Si donc un juif se met à dire « Pourquoi donc le Fils souffrait-il pour que le monde fût sauvé, comme s'il ne pouvait être sauvé même sans cela ?» qu'on lui réplique. « Pourquoi donc la Pâque était-elle immolée pour le salut des premiers-nés, comme s'il ne pouvait être sauvé même sans cela ?» Et cet homme n'aura rien à répondre, car Dieu n'a pas besoin de sacrifices ni de signes pour reconnaître les maisons. Mais c'est à nous que l'affaire donne raison, et à la sainte foi qu'elle rend témoignage, puisque notre injustice est dissoute dans la justice du Christ et ne pouvait l'être autrement, car les ténèbres ne peuvent être effacées que par la lumière, et que notre mort est abolie par la vie du Christ comme les ténèbres par la lumière. » Donc cette onction, n'est-ce pas, des portes, évoque tout le mystère du salut par le sang du Christ dont nous sommes marqués au baptême. Enfin, un très beau passage, plus long, sur le repas pascal lui-même, sur la mendication de l'agneau. C'est un très beau passage eucharistique. Vous voyez, dans cette homélie, à la fois la richesse de théologie ecclésiologique, de théologie de la rédemption, et vous allez voir, de théologie eucharistique. Donc, tel est bien le mystère de l'onction, des portes par le sang de l'agneau. Mais après l'onction, il y a la mendication qui fait habiter le corps divin en nous et le mêle à nous dans l'unité. Le texte de l'Exode dit « On mangera les chairs pendant cette nuit-là, rôties au feu. La nuit est l'âge présent. La nuit est avancée, dit Paul. C'est avec du feu que se fait la participation au Saint-Corps, c'est-à-dire avec un zèle enflammé et fervent. Fervent dans l'esprit, dit l'Écriture, et encore, je suis venu jeter le feu sur la terre, et que désirais-je sinon qu'il s'allume ? De même que le feu exprime le zèle fervent requis pour jouir des chairs reçues, de même l'azyme, l'absence de ferment dans le pain, requis dans la figure de l'Ancien Testament, signifie la simplicité et les herbes amères, les tribulations qui s'en suivent. Donc la participation au corps du Christ suppose la ferveur, n'est-ce pas, suppose la simplicité, suppose la participation aux souffrances du Christ. Chez nous, il y a une raison, même très grande, à ne pas s'approcher avec négligence de la participation au corps divin. C'est qu'il constitue un être auquel on ne participe pas si on le traite avec négligence et si on ne s'efforce pas par des bonnes œuvres de se mélanger à lui. La foi sans les œuvres, dit l'Écriture, est morte. Et c'est pourquoi ceux qui sont dans des dispositions de négligence tombent dans les tribulations pour leur utilité, comme le dit Paul, afin qu'ils participent ensuite à sa sainteté. Ne cuit donc pas la viande sainte, elle ne doit pas être, l'agneau pascal ne doit pas être bouilli, mais rôti au feu, n'est-ce pas ? Ne cuit donc pas la viande sainte en la mélangeant à des mets de volupté, nous dit l'Écriture, mais qu'on mange seulement des choses rôties au feu, lequel est le zèle tendu, ennemi de la volupté. Celui qui est ami de la volupté n'est pas ami de Dieu, comme dit Paul, et ceux qui ont pour Dieu leur ventre n'ont pas Dieu pour Dieu. Ceux qui transforment l'Eucharistie en somptueux banquet ne sont pas davantage admis par l'apôtre parce qu'ils font de la communion sanctifiante un prétexte à mangeaille et à beuverie. Il cite le texte de l'Épître de la première aux Corinthiens. En effet, toute la raison pour laquelle le Verbe de Dieu s'est donné dans un corps et s'est fait chair, selon le mot de l'Évangile, c'est afin que, dans notre incapacité de participer à lui comme verbe, comme parole non incarnée, nous participions à lui comme chair, en appropriant à sa chair spirituelle la nôtre et à son esprit notre esprit, autant que faire se peut, de manière à être constitué copie du Christ, en devenant des temples de l'esprit, ainsi que le dit l'apôtre. Vous êtes des temples de Dieu, et encore, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit en vous, que vous recevez de Dieu ? Et par ce mélange à l'Esprit du Christ, des corps deviennent choses à traiter avec sainteté, en les traitant précisément comme des membres du Christ. Ne savez-vous pas, dit Paul, que vos membres sont des membres du Christ ? C'est donc la préparation de la divine nourriture que la loi a réglée de cette façon, sous de tels symboles, en réglant pour notre utilité la préfiguration d'alors. Et le texte de l'Exode ajoute « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. » Que Paul soit ici encore notre exégète, en disant que nous faisons le mémorial de la passion du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce mémorial, en effet, n'est célébré et ne sauve que ceux et ne sauve ceux qui le célèbrent que jusqu'au moment où la nuit présente passera, où le matin se lèvera, et où vivant le Christ nous illuminera venant du ciel, nous sauvant alors par sa vie, lui qui nous sauve maintenant par sa mort. Si, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien davantage, une fois réconciliés, serons-nous sauvés dans sa vie? Si donc nous sommes maintenant sauvés dans la mort du Christ et devons l'être alors dans sa vie, c'est un symbole approprié que de ne rien laisser des chairs de la victime jusqu'au matin. Alors, en effet, nous serons vivants et notre état présent de cadavre passera. Car maintenant, nous ne sommes sauvés que si nous mourons, mais alors nous aurons un salut qui fait vivre. Ne vous souciez pas des choses terrestres, est-il écrit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, avec lui, vous paraîtrez dans la gloire. Donc voyez comment tous les détails du texte, d'une façon un peu artificielle sans doute dans les détails, mais cependant extrêmement suggestive, étaient interprétés à cette époque dans les commentaires qu'on pouvait donner des lectures bibliques au cours de la nuit pascale. Et voyez déjà la richesse de cette théologie. Encore une fois, richesse quant au dogme même de la rédemption, n'est-ce pas, quant à l'ecclésiologie, quant à la conception de l'Eucharistie comme vraiment mélange de notre chair avec la chair du Christ pour communier à son esprit, et aussi cette tension eschatologique que l'on devine à travers l'interprétation de ce dernier passage, n'est-ce pas, dans l'attente du matin. Mais comme je vous disais tout à l'heure, cette célébration pascale, si centrale, si unique, évidemment, s'est ensuite, en quelque sorte éclatée, si je puis dire, n'est-ce pas, en se monnayant en un grand nombre de fêtes, de célébrations, et nous avons un peu perdu cette unité, cette plénitude, si l'on peut dire, de la célébration pascale en son essence. Cependant, et c'est par là que je voudrais terminer, de même que ce développement liturgique n'a pas été, sans aucun doute, ne s'est pas fait sans une intention du Saint-Esprit, elle s'est produite absolument partout dans l'Église, c'est une chose universelle, où tous les chrétiens, qui a été reçue par tous les chrétiens, où tous les chrétiens se sont reconnus, et qui a duré jusqu'à nous pendant des siècles, donc c'est certainement une chose qui est voulue par l'Esprit et qui est bonne, mais en même temps, il est significatif que cette ancienne veillée pascale, faite de lecture, se terminant par la célébration eucharistique, qui était comme le noyau à partir duquel tout le reste s'est développé, n'est-ce pas ? Eh bien, cette célébration nous est restée. Un petit peu sous forme d'organe témoin, peut-être, mais si nous en comprenons toute la densité, je crois que nous pouvons lui rendre, pour nous, sa valeur. Et cette célébration, c'est maintenant les vêpres et la liturgie de Saint-Basile que nous célébrons au soir du Grand Samedi. C'est une célébration qui risque de passer un petit peu inaperçue, où nous risquons de ne plus très bien percevoir la signification, parce que nous avons maintenant une nuit pascale, des matines de Pâques, suivies de la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, qui sont vraiment la célébration de la résurrection, et nous avons célébré les jours précédents, surtout le grand jeudi et le grand vendredi, des offices qui commémoraient la dernière scène, qui commémoraient la mort du Seigneur, et cette célébration du soir du grand samedi, peut paraître un peu anachronique et avoir perdu quelque chose de sa signification. Et pourquoi, à ce moment-là, cette annonce pascale, n'est-ce pas, qui semble un doublé de la grande célébration des matines pascales ? Eh bien, en réalité, n'est-ce pas, cet office, qui se trouve maintenant anticipé dans la journée, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, le grand samedi, c'est l'ancienne vigile pascale, avec cette série de lectures au cours desquelles se fait le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, si je puis dire, des figures à la réalité, de la mort à la vie, n'est-ce pas, et qui culmine dans la célébration eucharistique. Et je pense qu'il est extrêmement intéressant pour nous que ceci ait été conservé dans notre tradition orthodoxe. Parce que là, nous retrouvons le noyau central de toute la célébration pascale. Et c'est finalement cela qui nous livre le sens de tout le reste. N'est-ce pas ? C'est vraiment la charnière entre le jeûne des journées précédentes, et puis la grande célébration pascale, le début de la cinquantaine, de la Pentecostie, la cinquantaine pascale, cela va être les matines pascales, mais finalement c'est avant tout l'annonce pascale qui a lieu au cours de la liturgie de Saint-Basile. Et le reste, eh bien, fait déjà partie de la cinquantaine pascale. Et la charnière entre les jours de la grande semaine et puis la célébration pascale, c'est finalement ces vêpres du grand samedi avec la liturgie de Saint-Basile. Et c'est à travers cela que nous rejoignons les couches les plus anciennes de la vie de l'Église, de la vie des premières générations chrétiennes. Il y a quelque chose d'extrêmement vénérable et en même temps qui est rempli d'une signification théologique et spirituelle extrêmement importante. Ces 15 lectures, n'est-ce pas, nous donnent toutes les figures bibliques, tous les textes bibliques que l'ensemble de la tradition a interprété en fonction de la vérité du Christ. C'est à partir de cela que toute la catéchèse chrétienne ancienne s'est constituée. Il y a quelques années, dans une toute petite introduction au mystère pascal paru dans la collection de Bellefontaine, j'avais noté ceci. Les matines de Pâques, je l'indiquais ici, se sont constituées pour combler le vide qui existait dans la nuit pascale à partir du moment où, pour des raisons pratiques, notamment la célébration des baptêmes, on a anticipé l'office des lectures dans la journée du samedi saint, et où aussi on a alors, encore une fois, davantage monnayé les différents aspects du mystère en attachant la célébration du dimanche plus explicitement à la résurrection. Donc les matines pascales byzantines, telles qu'elles existent aujourd'hui, célébrées au cœur de la nuit, comme la veillée primitive, constituèrent une vigile pascale parfaitement homogène à l'ensemble des offices de la grande semaine, et résultant la même évolution. Elles n'ont plus pour objet, comme la vigile pascale primitive, de célébrer à elles seules la totalité du mystère de la rédemption. La résurrection elle-même en est le thème essentiel. Mais le maintien des vêpres comme vêpres du samedi saint de l'ancienne vigile de lecture et de la liturgie de Saint-Basile, dans l'ordonnance actuelle, où cet office joue désormais le rôle d'une étape intermédiaire entre le grand samedi et la nuit pascale, répond bien au souci qu'a généralement la tradition liturgique byzantine de ménager des préparations et des transitions, qui, telle une succession de parvis, dispose progressivement les fidèles à accéder à la plénitude du mystère avec les dispositions requises pour y participer avec fruit. Et cette célébration donc des vêpres du grand samedi constitue une sorte d'initiation qui nous fait rejoindre, mais sous une forme synthétique, n'est-ce pas, tous les thèmes, toute la richesse, toute la plénitude du mystère, dont tout le reste n'est au fond que le détail, c'est la même réalité monnayée sous ces différents aspects, sous les différentes facettes que l'on peut en quelque sorte isoler. Donc je crois qu'il est important pour nous de garder le sens de cette célébration des vêpres du samedi, du grand samedi maintenant, n'est-ce pas, mais où nous retrouvons le cœur de la célébration pascale.